Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous propose que nous prions avant de commencer ce moment de réflexion. Seigneur notre Père, notre Dieu, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es le Dieu qui est incalculable et indéfinissable, tellement il est haut, tout puissant, nous sommes émerveillés parce que tu t'es révélé à la personne de ton Fils. Nous voulons te remercier de ce que tu es grand et en même temps près de nous, comme il nous l'a été rappelé dans Isaïe 57. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces paroles. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que toi, tu nous vois comme des grains de blé, tout minuscules, méprisables, mais qui, un jour, en leur temps, donnent du fruit. Nous voulons te remercier pour cette réalité que tu nous aimes et que tu nous regardes. Mais tu ne nous regardes pas pour nous juger, mais pour nous faire grandir. Seigneur, nous voulons te louer pour cela et sommes confondus d'adoration devant un Dieu tel que toi. Ça nous remplit de joie. Amen. Je vous propose de ne pas vous dire tout de suite le sujet de ma méditation. Je vous propose de deviner vous-même au travers de trois textes de la parole de Dieu et des quelques commentaires qui vont suivre. Vous avez Genèse d'abord, et Genèse au chapitre 33 et au verset 13, vous avez un épisode que vous connaissez probablement, hein. Jacob revient de Charan, et il revient dans son pays pour rencontrer ses parents, peut-être. En tout cas, Rebecca, sa mère, est déjà décédée. Il est resté 14 ans à Charan et il revient. Et vous savez ce qui se passe? Son frère arrive avec 400 hommes de pied, avec des armes. Et il sent très bien que les choses ne vont pas bien tourner. Et il rencontre son frère. Bon, vous connaissez peut-être un peu ce qui s'est passé. Et finalement, il arrive à embobiner son frère. Il arrive quand même à amortir le choc. Il envoie des cadeaux, et puis au fur et à mesure que les cadeaux arrivent devant Ésaü, Ésaü perd de sa rancune, de sa rancœur, et quand il voit son frère, il se jette dans les bras, il s'embrasse, c'est merveilleux. Et Ésaü dit, mais tu viens dans Séhir, viens chez moi, c'est super, et tu viendras. Et Jacob répond quelque chose, et c'est sur ce point que je veux insister, que je veux vous faire regarder. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » Voilà, premier verset dans Genèse. Deuxième verset, c'est dans Jérémie, au chapitre 12, verset 5. Jérémie pleure. Il se lamente d'ailleurs, hein. Il y a même un livre sur ses lamentations. Et Jérémie pose des questions à Dieu et Dieu lui répond et lui dit au verset 5 du chapitre 12 de Jérémie, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une région paisible, dans une contrée paisible, qu'est-ce que tu feras sur les rives orgueilleuses du Jourdain? » Alors, je ne sais pas si vous devinez le thème. Bon. Matthieu, chapitre 13, verset 29. Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens et que vous ressentez certainement, c'est la personne de Dieu. Elle est vraiment bizarre. Dieu, il est toujours inattendu et pas à l'endroit où nous essayons de le mettre, dans un tiroir, dans une façon, dans une conception. Il nous est dit d'ailleurs que nous ne devons pas nous faire une représentation de Dieu. Et bien sûr, nous, on n'est quand même pas fous, on ne se met pas à tailler un petit bout de bois en disant « Tiens, ça c'est mon Dieu ». Mais ne pensez-vous pas que dans notre intellect, dans notre concept, dans mon concept à moi, j'ai tendance à me faire une représentation de Dieu, là-dedans. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. Et là, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il a quelque chose que moi je n'ai pas et que peut-être vous avez vous, mais que nous n'avons pas beaucoup. Vous remarquerez que dans la parabole de l'ivraie, elle fait la suite à une autre parabole. Cette parabole, c'est la parabole qui nous parle d'un chemin, par exemple, hein, qui nous parle d'un endroit rocailleux, d'un endroit épineux, et puis de la bonne terre. Vous vous souvenez? Et Jésus donne cette explication, enfin, il ne donne pas cette explication, il est dans la barque et il est en train de dire tout cela à des gens qui écoutent. Tout le monde écoute, tout le monde entend, personne ne comprend. Personne. Croyez-vous que dans cette parabole du semeur, Jésus parlait de performance? Un chemin, une rocaille, des broussailles ou de la bonne terre? D'un air de dire, Jésus dirait, certains pourraient penser comme ça, il faut que vous soyez de la bonne terre. Faites tous vos efforts pour être de la bonne terre. Ce n'est pas vraiment la mentalité de Jésus à ce moment-là. Il parlait de l'état du cœur humain. Regardez dans Matthieu 13, 10, juste un petit peu avant, juste avant ce verset 29 où on parle de l'ivraie, dans Matthieu 13, 10, qui fait la suite à la parabole du semeur, les disciples sont vraiment interloqués, mais disent, mais pourquoi tu leur parles par énigme? Pourquoi tu leur parles de telle manière qu'ils ne puissent pas comprendre? Et vous savez ce qu'il répond, Jésus? Il répond ce qui s'est passé depuis Ésaïe, chapitre 6, versets 9 et 10. Ils ne veulent pas entendre. Dans Ésaïe, il est dit qu'ils ne veulent pas entendre. Que le peuple de Dieu ne veut pas entendre. C'est pas qu'il ne sait pas entendre. C'est pas qu'il n'a pas les capacités. Pour ne pas entendre. Hein, je m'explique mal. Je veux dire, ils savent et en sachant, ils refusent de suivre Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas, qui est sans information ou qui ne comprend pas, il n'est pas coupable. Mais celui qui comprend, qui dans son cœur a compris et qui dit « je ne veux pas », lui, il est beaucoup plus coupable que celui qui ne comprend pas. C'est ce que dit Jésus ici. Il dit, et il nous l'est mentionné dans Luc, chapitre 4, verset 15, sur le commentaire que Jésus fait sur la parabole du semeur. Jésus, dans Luc, dit « la bonne terre, c'est celui qui reçoit la parole dans un cœur honnête et bon ». C'est-à-dire que c'est une disposition, un état. Ce n'est pas une histoire de performance. Je vais essayer d'être de la bonne terre. Je vais essayer de... Non. Dieu ne demande pas à un enfant d'être quelqu'un qui va essayer d'être bien gentil. Si, bien sûr, mais je veux dire, ce que le père attend de son enfant, c'est qu'il reçoive la parole de son père et qu'il se mette à changer, mais depuis le cœur. Et non pas en voulant être meilleur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de performance, de recherche de qualité. Tout nous incite à être meilleur que ce que nous étions hier. Ce n'est pas ainsi que Dieu a construit notre vie. On a commencé, comme toute créature, par la fécondation d'un ovule, jusqu'à l'apothéose. L'accouchement, la naissance. Mais au contraire de tous les animaux, cette toute petite chose fragile, Dieu va mettre du temps pour en faire un homme et une femme. Du temps. Aujourd'hui, nous sommes presque dans une course à qui sera le premier qui parviendra à la perfection. Je vous parle du monde, mais est-ce que je ne parle pas parfois de l'Église ? Est-ce que c'est la concurrence pour que nous soyons parfaits? Vous connaissez certainement ces méthodes introduites dans les entreprises qui permettent d'améliorer la productivité. Quoi de plus légitime que de vouloir augmenter la production? Les méthodes de fabrication, c'est bien. Et là, on ne va pas être contre. Hein, mais jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Même nos parents nous ont appris qu'il faut travailler pour obtenir. C'est bien. D'être le meilleur à l'école, pour être le premier, pour gagner. Tenez, imaginez un petit garçon de 17 ans. Vous me direz, un petit garçon de 17 ans, bon. Enfin, bon, oui. Enfin, si quand même, 17 ans, c'est encore un petit garçon. Enfin, moi, j'étais petit garçon à 17 ans. Vous me direz que c'est plus un petit garçon. Et ce jeune homme tout fier annonce à son papa qu'il vient d'obtenir 18 sur 20 à la dissertation philosophique du bac blanc. Oh. Imaginez la réaction du père, imaginez. 18 sur 20 ? Mais t'aurais pu faire 20 sur 20. La moyenne du reste de la classe est 8 sur 20. Lui, il a 18 sur 20. Mais c'est pas encore assez. Le papa a oublié un paramètre. Encourager son fils. Être aux limites de son fils. Pas aux siennes. Le papa a oublié un paramètre. Je vous présente une caricature, mais je suis sûr que... Enfin, je suis sûr. N'avez-vous pas l'impression que parfois, dans vos expériences de vie, il n'y a pas eu des choses un peu similaires ? Peut-être pas avec votre père ni votre mère, mais avec d'autres personnes dont vous auriez voulu obtenir l'admiration. Dans le domaine professionnel, ce type de réaction paternelle est devenu assez courant. Une petite caresse encourageante sur l'épaule, une petite tape condescendante, assaisonnée d'une réflexion apparemment bienveillante, mais destinée à vous demander de faire plus d'efforts encore que ce que vous venez d'accomplir. Vous êtes comme l'enfant qui a eu 18 sur 20 et qui s'aperçoit qu'il n'y aura jamais de limite à la demande de performance que lui réclame son référent. Quel désastre psychologique ça peut entraîner chez un tout petit. Bon, l'enfant de 17 ans, enfin le jeune homme de 17 ans, il va quand même encaisser, encore, on ne sait pas. Mais un petit enfant qu'on éduque dans l'idéal de performance, sans qu'il soit possible qu'il soit question d'un seul regard d'encouragement et d'approbation, il risque de devenir un adulte sans cœur, insensible à la souffrance des autres, insensible à la sienne de souffrance. Et il peut devenir un dangereux psychopathe. J'exagère peut-être, mais c'est pour souligner le titre de ce message d'aujourd'hui. Et quel est-il ? Le voici. Notre Père, qui est aux cieux, bien sûr, bon. Notre Père est un Père qui nous respecte, qui est encourageant, et qui sait se limiter aux capacités de rapidité de ses enfants. Ou de rapidité, enfin, de lenteur de ses enfants. Ça dépend comment on voit. Hein. Il va volontairement ralentir son projet parce qu'il tient compte de la fragilité, de la délicatesse, de la jeunesse, de l'inexpérience, de l'inconséquence de ces créatures qu'il aime tendrement. C'est merveilleux que... Ésaïe 57 a été évoqué par Pascal, par Janet. C'était à peu près ce que je voulais dire. Nous allons voir maintenant un petit peu ces trois versets, si vous voulez bien. Et dans le premier point, Genèse 33, 13, l'attitude de Jacob devant Ésaü, c'est quoi ? C'était d'éviter d'avoir trop de tracas, de contact avec son frère. Genèse 33, 13. Jacob se doutait bien qu'après les retrouvailles, il aurait été difficile de garder de bonnes relations avec Ésaü. Pas les mêmes buts dans la vie, pas les mêmes sujets de conversation, et surtout pas le même Dieu. Jacob argumente sur la fragilité de son troupeau. Il dit quelque chose de très intelligent, il dit « Tu comprends Ésaü, il y a des petits, des brebis qui allaitent. Même si je voulais aller vite, je ne pourrais pas. Parce qu'il faut que je tienne compte des plus fragiles, des plus jeunes, des plus délicats, pour préserver la vie, pour préserver la richesse. » Il appelle Ésaü son seigneur, il se prosterne devant lui, il accepte d'être inférieur à son frère. Oh, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie à Jacob, depuis 14 ans. Mais ce qui nous importe ici, le plus, c'est de voir la sagesse de Jacob. Pas de précipitation. Il faut laisser du temps au temps. Je pense que Jacob a appris cela dans les souffrances et le travail qu'il a accompli chez Laban, son beau-père. Et que Dieu, au travers de ces souffrances-là, l'a formé, l'a sanctifié. Dieu a fait de Jacob un homme patient. D'une patience dont il nous est parlé dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voyez bien ici que Jacques évoque une longue durée. L'épreuve de votre foi qui produit la patience. Une longue durée. Et vous imaginez Jacob, par amour pour Rachel, qui se fait avoir et qui est obligé de rester 7 ans. Puis au bout des 7 ans, il y a le mariage et enfin, ça nous paraît bizarre. Et puis il s'aperçoit que c'est pas Rachel et il fait encore 7 ans derrière. Le supplanteur ou celui qui voulait rouler les autres s'est fait avoir par un plus fort que lui. Et Dieu l'a aidé à sortir. Ça a mis du temps. Vous connaissez cette strophe de La Fontaine dans Le Lion et le Rat? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est un peu ça. La Fontaine a été au contact de l'Évangile et peut-être qu'on le verra dans les cieux, je suppose, moi, mais on ne sait pas. Hein. Jacob, tout comme Jacques, hein, et c'est le même nom, hein, vous savez, nous font voir que Dieu est un Dieu qui utilise le temps. Un temps qui ne fait pas 2 secondes. C'est un temps qui dure longtemps dans la longueur. Au point que ses fidèles lui reprochent souvent sa trop grande patience à leur goût. Calculez le nombre de fois où vous voyez les paroles suivantes. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand laisseras-tu ton peuple opprimé par les méchants? Jusqu'à quand? Je sais que vous êtes persuadé que Dieu travaille dans la longueur. Hubert Reeves parle de patience dans l'azur dans un livre qui n'est pas chrétien, hein, du mystère que représente cette longueur du temps. Ce temps qui a l'air d'être Dieu, nous savons qu'il n'est pas Dieu puisque le temps est créé par Dieu, mais ce temps dans lequel Dieu intervient. Et nous sommes dans ce temps étiré comme des petits pointillés, des grains de sable éparpillés qui semblent vivre dans le temps de manière aléatoire. Un autre exemple, c'est celui de Job. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi la souffrance, Seigneur? Pourquoi? Et Dieu lui répond, il lui dit, où étais-tu quand je fondais la terre? C'est toi qui vas décider des temps et des moments dans l'histoire de l'univers? Vous connaissez ces frères et sœurs qui font de l'eschatologie? Leur dada favori. Ils voudraient connaître le temps de Dieu. Comme les disciples. Si Dieu se dépêchait un peu plus, ça serait mieux. C'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 1, verset 6. Est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu ramèneras ton règne? Et Jésus de répondre, mais ce n'est pas à vous de décider des temps et des moments. Ça appartient au Père. C'est comme si Dieu disait à Job, tu sais, Job, tu es un petit pointillé sur la ligne du temps, mais qui n'est pas insignifiant. Tu es un petit pointillé, mais tu n'es pas insignifiant. Mais tu restes quand même un petit pointillé. Et tu dois comprendre que mon projet s'étale sur un temps qui n'est pas le tien, mais le mien. Je ne te demande pas d'être omnipotent, omniprésent, omniscient. Je ne te demande pas de la performance, de la mise en qualité. Je te demande de vivre le temps présent, de le vivre bien malgré la souffrance. Je te demande de me faire confiance. Je te demande de comprendre que le tout petit pointillé que tu es, je l'amènerai jusque dans l'éternité. Saint Job l'y a compris. Je vous donne encore d'autres références sur le temps de Dieu. Marc, chapitre 1, verset 15. C'est juste le moment où il démarre son ministère. Et il dit, c'est Jésus qui dit, il dit, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Après 4 siècles de silence complet, c'est le temps de Dieu qui est arrivé.
Pourquoi c'était pas dans 2 siècles?
Pourquoi ce n'était pas 2 jours après? Pourquoi ce n'était pas dans 1000 ans plus tard? Non, 4 siècles de silence, et tout d'un coup, Dieu dit, le temps est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. On se dit, mais Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Alors nous, on est intelligents. Enfin, en tout cas, si on n'est pas intelligent, si vous n'êtes pas intelligent comme moi, je ne suis pas intelligent, vous avez quand même quelques petites cellules grises qui fonctionnent. Et vous les amenez à vous poser des questions. Et vous dites, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu fais-tu comme ça? Alors on pourrait quand même analyser ce qui se passe. Ce qui est arrivé au temps où Jésus est arrivé, c'est quoi? C'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'Empire romain. Les lignes de transport sont installées. Les Juifs se réunissent partout, dans les synagogues, le jour du sabbat, tout autour de la Méditerranée. À Marseille, à Montpellier, à Rabat, en Libye, en Afrique du Nord, en Yougoslavie, dans le nord de l'Arménie, partout. Chez les Parthes, chez les Mèdes, les Élamites, l'Irak, les Scythes, la Crète, l'Arabie, l'Inde, l'Éthiopie, la bande de Gaza. Et Jésus disait, beaucoup de personnes auraient désiré vivre ces temps-là. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 13, 17. Vous vous imaginez pas, dit Jésus, à vous là les disciples, qu'il y a des gens, ils auraient voulu être dans le temps, dans ce temps-là. C'est un peu comme nous aujourd'hui, on est émerveillés d'être dans le temps de Dieu aussi. Vous voyez ce qui se passe, hein, la politique, plein de choses. On est dans le temps de Dieu, on est dans les temps de la fin, disent certains. En tout cas, Israël est dans son pays. Il y a des choses qui nous font titiller. Ben, ce que Jésus aurait voulu pour ses disciples, c'est qu'ils soient aussi titillés par tout ça. Un autre texte sur le temps de Dieu. Jean 7, verset 8. Montez-vous à la fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. Parce que mon temps n'est pas encore venu, n'est pas encore accompli. Après cela, il resta en Galilée. Et nous savons néanmoins que Jésus, quelques jours plus tard, monta en secret à cette fête des tabernacles. Et les choses prodigieuses, au moment culminant de la fête, après que les 4 chandeliers aient été allumés, alors que les chantres venaient juste de terminer le grand hallel, au moment précis où tout le monde retenait son souffle, parce que dans la tradition, on savait que le Messie se révélerait à ce moment-là, on n'entendait pas une mouche voler. Et soudain, un grand cri. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Zacharie 13, il dit « En ce jour-là, en ce temps-là, une source sera ouverte. » Zacharie 13, relisez là, Zacharie 13. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'est pas encore donné, parce que le temps de la glorification de Jésus n'était pas encore arrivé. Ça va se passer bientôt, le temps de Dieu, à ce niveau-là. Ça va pas faire 4 siècles. Mais ce n'était pas encore arrivé. Et les huissiers, des experts, pour discerner les menteurs, les huissiers répondirent au Sanhédrin, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. » C'était le temps de Dieu. Ce temps que Dieu avait décidé, pas celui des frères de Jésus qui ne croyaient pas encore. C'était le temps de l'accomplissement de ce verset d'Ésaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Pas dans votre fond intérieur. Non, aux sources du salut. En vous, il n'y a rien qui vous permettra d'avoir une source de salut. Ça vient d'ailleurs. Ça vient de Dieu. Je vous propose encore un autre temps, juste simplement pour vous donner des idées. Hein ? Dans la parabole des vignerons, dans Matthieu 21-34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, le maître de la vigne envoyait ses serviteurs pour obtenir du fruit. Etc. Et vous savez ce qui s'est passé. Ça, ce temps-là, c'était pas encore tout à fait arrivé, mais on était dedans, quoi. Hein ? Les vignerons, ils ont voulu tuer le fils. Et en tuant le fils, ils se sont imaginés que le temps de Dieu était fini. Mais ils n'ont fait que accomplir le temps de Dieu. Dans Galates, au chapitre 4, au verset 2, même chose. Il nous est dit, un enfant, un héritier, il devient héritier que lorsque le temps est venu. C'est un petit enfant, il est peut-être le fils du roi, mais bon, pour l'instant, il est tout un petit bambin, il va au pot comme tout le monde. Hein. Il est comme tout le monde. Hein. Ce temps, c'est le père qui le décide. Mais lorsque le temps a été accompli, Galates 4, 2, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous avons reçu le titre d'adulte en Christ, mais nous sommes encore des enfants qui grandissons. Et nous recevrons l'adoption, la rédemption de notre corps à un moment donné. Mais c'est sûr, ça va se faire. Mais ça met du temps. Éphésiens chapitre 1, verset 10, il nous est dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est pour plus tard. Il va réunir, comme dans une sorte de mariage, l'ensemble, Dieu et sa création. Et ça devra être probablement prodigieux. Ce sera le temps de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, il nous est dit, vous connaissez bien, hein, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit, il sent bien qu'il faut faire attention, il dit, ah, voyez, il a envoyé le Fils. Oui, mais attention, c'est pas un pointillé, le Fils. Hein. Il vient, mais c'est lui aussi qui avait déjà créé l'univers dans le passé et qui regarde le futur. Voilà pour le premier point. Le temps de Dieu, énorme, et le petit pointillé que je suis, le tout petit pointillé de ma vie, de ta vie. Eh bien, ils vont être un jour réunis. Pas de performance, mes frères et sœurs. Vivez votre vie paisiblement, avec le temps qui passe. Jouissez de la vie en tenant compte de toutes les petites brebis qui n'ont pas notre performance. Parce que pour elles, Dieu ferait n'importe quoi pour les arracher au danger. Il serait même capable d'abandonner les 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentance, pour aller chercher et récupérer et soigner la plus désobéissante d'entre elles. Je vous ai dit au début, Dieu, on ne le voit pas à l'endroit où on imaginait qu'il soit. Il est autrement. Vous voyez la pensée de Dieu, une façon bizarre dont Dieu voit les choses et les gens. Ce n'est pas comme ça que le monde le fonctionne, lui. Lui, ce monde, il préfère écrémer. Il prend la crème. Et supprimer les brebis galeuses. Je ne fais pas de commentaire, mais vous avez dans l'histoire de tristes souvenirs des brebis galeuses. Enfin, de ceux qui pensaient que c'était des brebis galeuses. La pensée de Dieu, le temps de Dieu sont à l'opposé de cette mentalité du monde. Deuxième point, Jérémie 12, 5. Ça, c'est un deuxième point. C'est un peu autre chose. Jérémie pleure. Il ne peut pas s'empêcher de voir ce qu'il voit, Jérémie. C'est la catastrophe. Le mal est partout, non seulement chez les étrangers, les impies, mais en plus dans le peuple de Dieu. Ça va pas. Il n'y a plus rien qui va, même dans le peuple de Dieu. Bon, c'était de son temps. Chez nous, maintenant, ça va bien. Dieu lui répond, au chapitre 12, 5, ceci. Mon pauvre Jérémie. Hein, je paraphrase un peu, si vous voulez. Mon pauvre Jérémie, je dois tenir compte de la fragilité de ton être, de ton corps. Tu es en train de courir avec des piétons. C'est bien. Mais comment tu feras? Comment tu feras? Lorsque la guerre sera encore plus intense. Avec des chevaux. Et crois-tu que les contrées dangereuses sont réellement dangereuses? Et que les endroits que tu estimes paisibles et sans danger le sont réellement? Si tu veux savoir, Jérémie, même ta famille désire ta perte. Verset 6. Ici, dans ce texte, Dieu veut nous apprendre que nous sommes extrêmement fragiles. J'ai pas conscience d'être fragile. Enfin, si, quand même, un petit peu. Mais à quel point? Est-ce que tu sais si tu es vraiment fragile? Oui, on sait qu'on est fragile, mais est-ce qu'on le sait comme Dieu le sait? Dieu veut nous apprendre que nous sommes extrêmement fragiles et que dans ces situations d'extrême fragilité, Dieu ajuste les choses. En résumé, c'est ceci. Jérémie, ne fais pas trop le performant, le prophète parfait. Parce que si vous regardez le texte qui est juste avant le verset 5, vous voyez que Jérémie, il est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et il est vraiment tout feu, tout flamme. Ce n'est pas un hypocrite. Il est vraiment pour Dieu. Il ne fait pas trop le performant. Il ne fait pas le prophète parfait. Celui qui exige de la qualité. Là où plus personne n'arrive à distinguer sa droite de sa gauche, comme dans Jonas. Toi, si tu le peux, c'est bien. Mais ne l'exige pas des autres. Et prends conscience de ton extrême fragilité. Je passe au troisième point. Troisième point peut nous apparaître vraiment, vraiment énigmatique. Cette ivraie qui a été semée dans le champ. Comment se fait-il que Dieu donne l'impression de ne pas connaître la nature des brins d'herbe qui viennent d'éclore juste après l'hiver? N'est-il pas le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, qui connaît le nombre de nos cheveux? N'est-il pas capable de faire le tri immédiatement, comme lui suggèrent ses serviteurs, les anges? Pourquoi il ne le fait pas? Les disciples de Jésus sont perplexes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ivraie? Serais-je moi-même de l'ivraie ou du bon grain? Et Jésus va leur répondre, Dieu ne veut pas de performance. La graine parfaite qu'il a semée ne peut que se développer, à son rythme, selon ses capacités, comme un petit agneau qui gambade autour de sa mère, on ne lui demandera pas d'avoir le même comportement qu'une brebis adulte. La graine bizarre qu'un ennemi est venu déposer est en tout point identique à la graine parfaite. Ce ne sera qu'au moment de la germination que les serviteurs s'apercevront qu'il y a des vrais et des faux. Eh bien, tant pis, on attendra la moisson. C'est un peu ce que dit le maître, tant pis, on attendra la moisson. Mais non, il faut faire tout de suite. Non, on attendra la moisson. Vous allez imaginer que les vrais, ce sont les plus performants, les plus dignes, ceux qui sont sans péché, et parce qu'ils sont sans péché, ils ne jetteront aucune pierre sur qui que ce soit. Et vous allez imaginer également que les moins parfaits, ceux dont la mise en qualité pose un problème insoluble, ce sont eux les faux chrétiens. Non. Dieu demande à ses serviteurs d'attendre le temps de la moisson, la fin du monde. Dieu est une personne écologique, qui n'intervient de manière spectaculaire que lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire lorsque c'est lui qui le décide. C'est vrai, il y a quand même des moments où Dieu, pouf, il a mis un gros coup, dans l'histoire du monde. Hein. La sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, par exemple, l'insomnie du roi Assuérus. Discret, hein, mais salutaire. La suppression de toute la race humaine, au temps du déluge. Par exemple, l'arrivée incognito d'un fœtus dans l'utérus d'une vierge de Nazareth. Par exemple, Dieu n'est pas spectaculaire, parce que s'il l'était, tout le monde l'aurait vu. Dieu est un Dieu qui se cache, c'est dans Ésaïe 45, verset 15. Un Dieu qui travaille dans la longueur du temps et qui respecte dans la lampe à huile le lumignon qui fume encore. Ce n'est pas lui qui l'éteindra. C'est l'esprit de Matthieu, chapitre 12, verset 20, vous savez, ou c'est la première partie d'Ésaïe 42, parce qu'il y a trois parties dans Ésaïe 42. Mais regardez Ésaïe 42. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Ce n'est pas vraiment le système d'aujourd'hui. Hein. Et puis, un autre texte qui m'a semblé curieux aussi, c'est Exode 23, 20. Dieu promet au peuple qu'il sera à ses côtés pour la conquête du pays promis. C'est avant la révolte, hein. Avant l'investigation des 12 espions en Canaan, avant cette période-là, Dieu avait dit, mais il l'a fait après aussi quand même, hein. Même s'il y a eu 40 ans après, Dieu était toujours là et s'introduisait avec le peuple 40 ans plus tard, oui, parce qu'il y avait des désobéissances. Dieu promet au peuple qu'il sera à ses côtés pour la conquête du pays promis. Verset 20 du chapitre 23 d'Exode. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. » Un ange qui a le pouvoir de ne pas pardonner les péchés. Et après, il y a une Une parenthèse après, Dieu dit, car mon nom est en lui. En fait, du temps de la conquête de Canaan, nous nous apercevons que l'ange de l'Éternel, le Fils, marchait devant le peuple. Le Fils de Dieu était donc actif dans cette conquête. Il était présent. Alors, imaginez, ça va se faire en 2-3 coups de cuillère à peau, avec Dieu lui-même qui est devant, je vous assure que ça va déménager. Eh ben non, surprise. Et c'est là-dessus que je veux insister. C'est pour ça que je vous dis ce verset qui est curieux. Les choses vont se faire avec l'ange de l'Éternel qui est là, non pas de manière spectaculaire, avec le feu du ciel qui tombe sur les ennemis, comme c'est arrivé parfois, non, mais bien autrement. Au verset 28, il est dit « J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, comme avec Nimrod. » C'est arrivé bien avant, c'était à peu près le même truc. Dieu fait attention d'équilibrer écologiquement les choses. Je les chasserai peu à peu, progressivement, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. » Le petit commentaire qu'on pourrait faire, c'est que Dieu avait utilisé Israël pour un jugement sur un peuple, sur des peuples qui étaient odieux du point de vue moral et en particulier sur la notion du mariage. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où l'esprit de performance peut nous séduire, peut me séduire. Ce que Jacob a appris le plus, c'était de laisser du temps au temps, d'attendre et d'attendre le temps de Dieu, donner le temps aux jeunes brebis de se développer, permettre aux plus âgés de mourir en paix, dans leur temps. Tout comme Abraham a passé toute sa vie à attendre, nous avons à apprendre la patience, à attendre, plutôt que de la performance. Comme Jérémie, même si nous savons rester fidèles, nous ne pouvons pas demander à Dieu d'intervenir au moment où nous le voulons et de la façon qui nous semble être celle de Dieu. « Dieu, détruit tout, je suis capable d'encaisser ça. Je tiendrai le coup car je suis avec toi. » Jérémie, mon pauvre Jérémie, tu n'as pas conscience de ton extrême fragilité. Et moi j'en ai conscience et je te protégerai. Tu sais Job, tu es un petit pointillé sur l'échelle du temps. Mais tu n'es pas insignifiant. Mais tu restes quand même un petit pointillé. Et tu dois comprendre que mon projet s'étale dans un temps, sur un temps qui n'est pas le tien, mais le mien. Je ne te demande pas d'être tout puissant. Je ne te demande pas de performance et de mise en qualité. Je te demande de vivre le temps présent, de le vivre bien, malgré la souffrance, de rester fidèle. Je te demande de me faire confiance. Je te demande de comprendre que le tout petit pointillé que tu es, je l'amènerai jusque dans l'éternité. C'est bizarre. Dieu nous dit, en somme, ni trop, ni trop peu. C'est comme si Dieu était normand, vous savez. Oh, c'est l'équilibre. C'est Dieu. Dieu aime l'équilibre. Il est vrai, il est doux, il est humble de cœur, il est authentique. Il prend soin du plus petit d'entre nous et il ne le considère pas comme quelque chose de négligeable. Excusez-moi, je sais que vous le savez, mais ne croyez-vous pas qu'il soit nécessaire parfois de rappeler les choses totalement évidentes que notre siècle de la performance voudrait bien effacer. Jacob, laisse le temps au petit agneau pour qu'il devienne une brebis. Sois parfait, Jérémie, mais ne l'impose pas aux autres, tu es plus fragile que tu ne crois. Et puis l'ivraie. Tu crois que cette graine-là ne fait pas partie de l'Église ? Bah attends, c'est au temps de la moisson que le maître pourra dire « Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. » Pas avant ce temps-là. Dans Juges, chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon. Et il dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va avec cette force que tu as, Gédéon. » La force que tu as, pas la force du voisin. Ta petite force de rien du tout. Oui, mais lui, là, il a beaucoup plus de force que moi. Je te parle pas de lui. Vas-y avec la force que tu as. Oui, mais je suis tout petit. Je suis le petit dernier dans la maison de mon père. Mais tu as de la force. Ta force. Pas la force du voisin, la tienne. Alors vas-y. Jacob est un modèle de berger. Il veut amener l'ensemble de son troupeau sain et sauf jusqu'à destination. Il ne dit pas « je supprime les plus faibles et ainsi j'irai plus vite ». Non. La performance, c'est l'ajustement de sa marche à la moins performante de ses brebis. Dieu est le bon berger. Il a ramené des brebis qui n'étaient pas de la bergerie initiale et il les a incorporées au troupeau. Et ce bon berger, sans avoir besoin du mot « performance », ce bon berger, j'en suis persuadé, il a commencé une bonne œuvre en nous, nous tous. Et il la rendra parfaite. Il rendra cet ouvrage parfait pour le jour de Christ. Ce n'est pas encore arrivé, hein? En son temps, sans avoir besoin du mot performance. Vous avez vu le psaume 1, verset 3. Il y a un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit. Pas tout de suite. En son temps. Psaume 131, verset 3. « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et tout relevées pour moi. Je suis calme comme un enfant sevré qui est sur le sein de sa maman. » C'est David qui dit ça. « Israël, mets ton espoir en l'Éternel pour tous les temps, progressivement, ça va venir. Mais toi, reste sevré sur le sein de ta mère. » Enfin, comme si Dieu était comme une mère qui tient son enfant. Mais c'est ça. Et le dernier verset. Le dernier verset que je vous donne, après nous prions, dans Hébreux chapitre 4, verset 10, il nous est dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Il œuvre encore. Celui qui œuvre, il entre dans le repos de Dieu, comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est curieux, hein ? La notion de progression mesurée de Jacob, c'est agir. Il agit dans le repos. La notion de patience devant le péché pour Jérémie, c'est une action de Jérémie. Placer sa foi sur le modèle que Dieu lui donne. Ouais, Seigneur, tu as raison, il faut pas que je fasse trop le prophète. Même si je suis un vrai prophète et un super prophète, il faut que je me mette à la place des autres, de tous ceux qui pêchent. Et pour la parabole de l'ivraie et du bon grain, la notion du jugement sur les gens qui n'appartient qu'à Dieu, et qui ne sera révélé qu'au temps de la fin. Vous comprenez ? Le temps de Dieu, le temps qui est tellement, enfin, qu'on ne comprend tellement pas que quelquefois il nous surprend. Le Seigneur nous demande d'aller à notre vitesse, de ne pas créer ou de ne pas susciter, disons, des systèmes d'amélioration comme on voit dans ce monde. Dans l'Église, ça ne doit pas exister. On accepte tout autant la petite brebis, toute petite, ou qu'on estime petite, par rapport à nous qui sommes très 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 avancés dans la foi. Puis le Seigneur, parfois, il nous humilie parce qu'on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la vision qu'il a, lui. Que le Seigneur nous encourage dans cette vision des choses qui n'est pas du tout celle du monde. Hein. Voilà. Nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu de paix, le Dieu qui regarde et qui nous voit tels que nous sommes, sans phare, sans masque. Nous voulons te remercier de ce que tu nous as sauvés par grâce, de ce que, comme pour Jacob, tu veux nous aider à comprendre qu'il faut du temps et que tout le troupeau doit venir jusqu'à toi. Que, comme Jérémie, c'est pas parce qu'on est prophète, c'est pas parce qu'on est très avancé dans la foi que tu vas aller à notre rythme, tu vas aller au rythme que tu as décidé toi. Et puis c'est toi, Seigneur, qui juge. C'est pas moi, c'est pas nous. Et nous savons que c'est le jour du jugement que nous verrons ce qu'il y a de différent entre le bon grain et l'ivraie. Seigneur, guide-nous, conduis-nous pour que nous soyons toujours dans la sagesse vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de frères et sœurs, vis-à-vis des ceux du monde, vis-à-vis de Dan, par exemple, qui a agressé Noémie. Nous voulons te remettre tous ces gens qui ont l'air d'être tellement hostiles à ta parole et qui peut-être un jour nous les retrouverons dans les cieux. Seigneur, guide-nous, conduis-nous pour que nous ayons toujours cette sagesse et cette patience et cette douceur que tu veux voir chez tes enfants, comme tu l'as dit dans Matthieu, chapitre 5 et 6. Au nom de ton Fils, Amen.